Salut à toutes et à tous, c'est le retour de Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. On est heureux de vous retrouver après une pause estivale, on espère que vous avez profité des vacances et que votre rentrée s'est très bien passée. En parlant de rentrée, Apple a fait la sienne lundi avec un keynote consacré aux iPhone 16. Avec Christophe, on va revenir brièvement sur les principales annonces de cet événement avant de discuter des autres sujets chauds de la semaine. On va parler de la sortie très prochaine d'iOS 18 et macOS Sequoia, des rumeurs sur un futur keynote en octobre et des énormes arriérés d'impôts d'Apple. Nous sommes le samedi 14 septembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. La nouvelle saison de Sortie de Veille démarre sur les chapeaux de roue avec plein d'annonces de la part d'Apple. Salut Christophe, ça va ?
Salut, bah écoute, oui, ça va. Aujourd'hui, on sent un petit peu vieux parce que c'est l'anniversaire de Mac Génération et on a 25 ans. Donc,
25 ans.
Merci à tous ceux qui nous supportent depuis si longtemps. Donc voilà, ça va toi ?
Ça va pas mal, ouais, t'as passé des bonnes vacances ?
Avec le keynote, la semaine du keynote, les vacances me paraissent très loin et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais c'était trop court, on va dire.
Ouais, comme toujours, ouais. Alors, on ne va pas revenir en détail sur le keynote de lundi. Je vous invite à découvrir un peu tout ça avec l'épisode de Kernel Panic qui a été enregistré par Félix, Nicolas et Anthony, où ils reviennent pendant plus d'une demi-heure sur le keynote. Mais je voulais quand même avoir ton avis, Christophe, sur l'événement et puis les nouveaux produits d'Apple. Qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce que tu as moins aimé ?
Alors, comment dire ? Ça a été une édition assez spéciale parce que ma seule attente, finalement, du keynote, j'ai appris lundi à 7h30 sur notre Slack. En fait, on utilise un outil qui s'appelle Mattermost, qui est un Slack open source. Eh ben, qu'il fallait s'attendre à rien. On a appris lundi matin assez tôt qu'il n'y aurait pas d'Apple Watch Ultra 3. Moi, c'est le petit produit qui m'intéressait pour ce keynote. Même si, à ce moment-là, j'avais quand même quelques doutes parce qu'on parlait beaucoup de la Watch, de l'Apple Watch 10 et très peu de l'Ultra. Il y avait une petite phrase par-ci, par-là.
Il y a peu de rumeurs, ouais.
Ouais, donc moi, j'espérais qu'elle, grosso modo, elle soit au même niveau d'un point de vue matériel. Donc, faut bien le dire, pendant toute la matinée, j'étais très déçu. J'ai eu du mal à m'en remettre.
Est-ce que c'est pas un mal pour un bien qu'il n'y ait pas d'Apple Watch Ultra cette année ? Parce que l'année dernière, on avait dit « Ah ouais, l'Ultra 2, elle n'a pas beaucoup de nouveautés. » Voilà, si c'était pour avoir une Ultra 3 avec pas beaucoup de nouveautés...
Tu as totalement raison et j'avais même soumis l'idée à Apple de dire que ça ne sert à rien de sortir des montres chaque année et qu'ils pouvaient très bien espacer la sortie de deux Apple Watch ou deux Apple Watch Ultra, on va dire, en faire une mise à jour tous les 18 et 24 mois, et faire au milieu de ce cycle, pas une mise à jour, mais une nouvelle édition, justement, avec une nouvelle finition, et jouer sur cet aspect-là. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que l'Ultra 2, avec sa finition en titanium noir, Elle est très très sympa et je suis assez persuadé qu'elle va très bien se vendre, en tout cas à court terme. D'ailleurs, il y a même des délais d'expédition qui sont assez importants maintenant. Donc oui, c'est plutôt bien vu, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais.
Puis l'Ultra 2 en plus gagne des nouveautés de la série 10 aussi, donc tu ne te sens pas lésé par rapport
à ça. C'est ça. Ouais, alors moi j'ai une Ultra tout court, mais même avec une Ultra, il y a certaines choses qui apparaissent. Et ça, c'est d'ailleurs un point de vue, c'est plutôt une chose assez positive du keynote. C'est-à-dire que oui, les possesseurs d'Apple Watch Ultra, Ultra 2 et de Series 8 et 9, je crois, enfin je suis pas tout à fait sûr pour les Apple Watch Series, récupèrent quelques fonctionnalités, donc ça c'est plutôt positif. Et c'est quelque chose d'assez général, entre guillemets, sur les petits produits d'Apple, parce qu'on voit plus ou moins la même chose avec les AirPods Pro, qui gagnent de nouvelles fonctionnalités, ça aussi c'est assez sympa et c'est bien de se dire qu'on achète un produit qui continue finalement à progresser avec le temps. Le seul souci pour ces produits-là, et ça reste la batterie, en fait, moi, l'une des choses qui me disait que peut-être que ça serait temps de changer, c'est que voilà, j'ai une Apple Watch depuis 2 ans et la batterie d'une Apple Watch Ultra est en train de se transformer en batterie d'Apple Watch tout court. Donc, je suis arrivé au keynote, finalement, sans aucune attente, finalement, de manière très, très détendue. Voilà, je l'ai suivi Voilà, et finalement, bah, c'était pas mal. J'étais assez étonné. Je me suis dit, ah, ça c'est bien, ça c'est sympa. Je trouve ça, faudra voir ça. Ça c'est une bonne idée. Voilà, bah, d'ailleurs, Apple a mis le paquet sur l'Apple Watch Series 10. Bah, elle est sur certains points assez impressionnante. Enfin, quand on voit d'ailleurs l'écran d'une Apple Watch 10 à côté d'une Apple Watch Ultra, ce dernier il paraît tout petit. Donc, je pense qu'elle va très bien se vendre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des anciennes Apple Watch et qui vont profiter de l'occasion pour s'offrir ce nouveau modèle.
Mais j'ai quand même une interrogation là-dessus, c'est que alors, les Apple Watch deviennent de plus en plus grandes. Est-ce que maintenant, la Apple Watch Series 10, la plus petite, elle n'est pas trop grande, en fait, pour certaines personnes? Je parle, en plus, pour moi, qui ai un poignet très fin, je me demande, voilà, ça sera à tester, mais si elle ne va pas devenir un peu trop grande, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai un peu l'impression que c'est un peu la même chose qu'avec les iPhones.
Oui.
On disait oh, 48 mm, et maintenant... Je me demande si d'ailleurs la suite pour Apple, pour continuer encore à distinguer un peu mieux ces deux modèles, c'est, je me demande si on ne va pas se retrouver dans un an avec une Apple, peut-être plusieurs tailles d'Apple Watch Ultra, et peut-être même une qui sera au-dessus des 50. Ça existe chez d'autres marques. Moi aussi, ça me paraît énorme. Mais en même temps, c'est ce que je disais à Cédric l'autre jour, ça me paraît énorme. Et puis dans 3 ans, on dira, bah oui, 52 mm, oui, bah ça... Ça passe finalement. Donc on verra ce que l'avenir nous propose. Ça laisse aussi peut-être aussi un petit espace aussi à l'Apple Watch SE.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais oui, je suis d'accord. Alors, mais c'est pour ça que, bon, genre de choses, il faudra attendre de l'avoir en vrai pour avoir un avis définitif là-dessus. Voilà, par rapport au point du keynote, il y a aussi l'iPhone 16. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on est abreuvé de rumeurs toute l'année. Et puis finalement, on voit le keynote, peut-être qu'on met quelque part les rumeurs de côté, on voit le produit, et je l'ai trouvé très 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 sympa. Je trouve que le coup du bouton de contrôle de caméra, c'est quand même... c'est très 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 astucieux. Voilà, je le trouve joli, j'aime bien les couleurs. C'est un modèle qui me ferait presque envie, mais alors c'était un peu le problème de ce keynote, c'est-à-dire que... si vous êtes américain, vous voyez cet iPhone 16 ou cet iPhone 16 Pro, vous dites « Ah, ouais, c'est bien et ça ». Et puis, avec Apple Intelligence, ça, ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Mais nous, on est quelque part, on est privé. Alors, c'est même pas la cerise sur le gâteau. On est quand même privé du gros du morceau en se disant « Ah non, mais attends, Apple Intelligence, ça débarque au mieux, on va dire, au premier trimestre 2025. Voilà, alors... l'iPhone sera quasiment en milieu de cycle de vie, donc oui, bah, on se dit bah, autant attendre une année de plus, quoi. Ça vaut pas le coup de se précipiter, sauf si vous avez un iPhone qui tire la langue. Bon, et là encore, hein, je me répète, il faudra quand même attendre de les avoir en main pour avoir un avis définitif là-dessus, mais en tout cas, c'est les premières impressions que ça m'a fait.
Mais après, même pour Apple Intelligence, même pour les Américains, Apple Intelligence arrivera seulement en octobre, bon, c'est bientôt, mais ça sera toujours en bêta, il n'y aura pas toutes les fonctionnalités. Même voilà, en dehors de l'Union européenne, ça va arriver très très progressivement et pas de manière définitive, quoi. Donc,
oui.
Je trouve que, enfin, faudra voir, mais je pense que l'attente va pas paraître si longue pour nous autres Européens.
On verra, et après, il faut voir à quel point ils arrivent aussi, par exemple, avec la prise en charge du français. Est-ce que c'est, entre guillemets, une prise en charge progressive? On commence petit à petit par telle ou telle fonctionnalité, ou on a tout d'un coup? En tout cas, bon, les Américains vont essuyer les plates pour nous, on va pas voir ce que ça donne. Mais ceci dit, quand on voit les démos, je trouve que c'est très... Enfin, moi, ça me fait envie, je trouve ça très intéressant, j'ai vraiment envie de tester ça. Donc on verra. Alors ça, c'est entre guillemets les côtés positifs du keynote. Il y a eu quand même, malgré tout, des choses que j'ai moins aimées. Alors moi, je trouve que c'est trop long. Ce keynote de septembre dure est beaucoup, beaucoup trop long. Moi, c'est simple, quand il avait fini de présenter l'iPhone 16, je me suis dit, en fait, il faudrait que ça s'arrête là. Et là, on part en vérité pour 20 minutes d'iPhone 16 Pro. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils gardent le meilleur pour la fin. Et on voit des trucs qui ont l'air sympas, et ils font plein des vidéos qui en mettent plein la vue. Et en même temps, on est, ouais, ok, c'est bien, mais ouais, non, mais là, il faut finir, Tim. Et voilà, je trouve qu'il y a des longueurs. Et voilà, on parlait par exemple d'Ultra 2. Pourquoi ils perdent 5 minutes pour nous évoquer tout un tas de fonctionnalités concernant ce modèle, sachant qu'il n'est pas mis à jour. En plus, d'un point de vue marketing, ils cherchent à la survendre en disant qu'elle a le meilleur GPS du marché. Non, je suis désolé, Apple, et le GPS de l'Apple Watch Ultra 2 est excellent, il n'y a pas de souci. Mais il y a des concurrents qui ne sont pas restés les bras croisés. Il y a Garmin qui a mis à jour ses montres il y a 2 semaines. Et bon, a priori, le GPS des Garmin est un poil au-dessus. Et il y a un autre truc que j'ai trouvé aussi très bizarre, et j'ai vu que dans les commentaires, certains avaient eu la même réflexion que moi. Je trouve que Tim Cook, il cherche à crier, il cherche à lever la voix plus que de normal, et c'est très bizarre. Enfin, on a l'impression qu'il est là et qu'il surjoue le truc. je trouve ça un peu pénible et un peu gênant. Mais peut-être que c'est que moi, mais enfin...
J'ai pas fait trop attention à ça. J'étais concentré sur son discours.
Voilà. En tout cas,
amazing, comme d'habitude.
J'ai vu les résultats du sondage qu'on a fait et c'est vraiment très, très partagé. À la fin, ça faisait presque du 50-50 sur ce qu'il note.
Alors, tous les nouveaux produits sont en précommande depuis hier, le 13 septembre, et ils seront tous disponibles le vendredi 20. D'ici là, on aura tout de même de quoi s'occuper, car lundi prochain, tous les nouveaux systèmes d'exploitation vont être lancés en version finale. Alors, il y en a un paquet, hein. Alors, je prends ma respiration, attention. Il y a iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 et visionOS 2. Et je parle même pas des mises à jour pour le HomePod, les AirPods, etc. Je crois que tu as installé la plupart des release candidates de ces systèmes, Christophe. Est-ce que c'est stable et quelles nouveautés tu utilises au quotidien?
Oui. Dans l'ensemble, c'est assez stable pour D1.0. Alors, il y a encore des bugs ici ou là. C'est rien de très méchant. Mais voilà, c'est ce qui me fait dire quand même que, et ça, Tim Cook l'avait précisé lors de la conférence des résultats financiers, que le gros des troupes, enfin peut-être pas le gros des troupes, mais une bonne partie des ingénieurs des équipes système d'Apple travaillent sans relâche sur Apple Intelligence. On sent quand même que c'est le truc. Parce que quand on installe ces mises à jour, et c'est notamment le cas de Sequoia, on a quand même l'impression, j'ai installé, alors on est sur quel numéro de version là? Ah non, mais c'est une mise à jour majeure.
À Sequoia, je l'ai installé très récemment là. Et en fait, la seule nouveauté visible qui m'a sauté aux yeux littéralement après l'installation, c'est toutes les fenêtres de sécurité qui te demandent si tu veux autoriser l'application à accéder au réseau local. Et puis pour les captures d'écran aussi, la nouvelle fenêtre de sécurité. Mais à part ça, Sequoia, effectivement, tu fais vite le tour des nouveautés. Ouais.
C'est vrai que c'est pas très glorieux. Mais moi, je l'aime bien parce qu'ils ont réglé un bug qui traînait depuis des années sur les Mac avec architecture Apple Silicon. C'est la gestion de mémoire de Windows Server. Alors, quand vous allumiez le Mac, ce process, il prenait à peu près 1 giga de RAM. Alors, ça dépend effectivement de si vous aviez un grand écran, beaucoup de fenêtres ouvertes. C'est lui qui gère, grosso modo, enfin, comme son nom l'indique, hein, qui s'occupe de la gestion des fenêtres sous macOS 10 pour être rapide. Et donc, plus vous ouvriez des fenêtres, plus il prenait de la mémoire et il libérait jamais de la mémoire. Ce qui fait qu'au bout de, je sais pas, de 10 jours, ce process pouvait prendre 3 à 4 gigas de mémoire. Donc, si vous aviez un Mac avec peu de mémoire vive, ça pouvait être gênant. Et il n'y avait pas moyen de forcer ce process à libérer de la mémoire. Donc, soit il fallait redémarrer le Mac, soit il fallait le killer. Mais alors là, ça vous faisait quitter la voie de session. Donc, c'est pas très pratique. Et là, avec Sequoia, j'ai encore allumé le Mac il y a 2-3 jours en installant la RC. Il commence à 2 gigas de RAM. Alors, il peut monter, évidemment, si vous avez beaucoup de fenêtres ouvertes, mais si vous refermez tout, eh ben là, il revient exactement à 2 gigas de RAM. Donc ça, ça fait partie des petits trucs, c'est un détail, mais c'est le genre de petites choses qui finalement changent la vie. Et tu disais que, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, il y a quand même un petit truc qui est très sympa dans Sequoia et dans les autres versions des systèmes d'exploitation d'Apple, c'est quand même l'application de mot de passe. J'ai envie de dire enfin, et je me fais quand même du souci pour des applications type 1Password, même si quelque part avec leur abonnement, ils l'ont peut-être un petit peu cherché.
J'utilise 1Password moi, donc c'est vrai que l'application mot de passe, je ne vais pas trop m'en servir, mais je reconnais qu'elle est simple à utiliser, puis c'était vraiment quelque chose qui manquait, là ça sera beaucoup plus facile de gérer ces mots de passe stockés dans iCloud, ouais.
Alors, il y a un truc très narguant dans Sequoia, c'est l'application recopie de l'iPhone. Apple la glisse sous le dock. Elle me dit « Ah, mais c'est super, je peux l'utiliser. Ah, ça me plaît bien, je vais voir ce que ça donne. » Et puis, bah, vous cliquez dessus. Elle dit « Ah, non, c'est pas pour toi. Il faut que je regarde le message d'erreur en intégralité. » Mais voilà, c'est elle vous dit que pas de chance, vous êtes en Europe.
Ouais. Mais alors, avec Nicolas avait fait l'essai, en fait, c'est possible d'activer la fonction si vous connectez à l'App Store avec un compte qui n'est pas européen. Par exemple, un compte américain, là, ça débloque la fonctionnalité de recopie. Voilà. Mais bon, c'est pas quelque chose, effectivement, qui est accessible à tout le monde. Ouais.
Bon, j'essaierai de bidouiller ça plus tard. Voilà, donc ça, c'est pour macOS. Pour iOS 18, alors... On en avait rigolé en interne. Moi, je trouve que c'est un peu désbrouve quand même, hein. Parce qu'en 2024, se pavaner parce qu'on peut placer une icône un peu partout sur l'écran, jouer avec les couleurs des icônes, c'est très sympa. Je suis sûr que ça va faire plaisir à plein de gens. J'ai un peu joué avec, c'est assez rigolo. Mais d'en faire des caisses pour un système d'exploitation qui, cette année, va fêter, alors on en est quoi? C'est 2007, à peu près. Ouais, donc on en est à 17 ans. Pourquoi pas? mais bon. Je trouve qu'Apple a quand même nul pareil pour enfumer son monde avec des nouveautés des fois, mais bon. Alors c'est pareil que macOS. Si on enlève Apple Intelligence, heureusement qu'il y a ça parce que sinon c'est quand même pas une mise à jour spectaculaire. Et puis alors bon, j'ai passé sur iPadOS parce que je l'ai un peu utilisé, mais pas plus que ça. Par contre, j'ai beaucoup utilisé watchOS 11. Alors là aussi, c'est la pluie aux petits changements, mais souvent ce sont des changements qui sont très pratique. Je trouve que par exemple l'apparition du mode activité en direct, c'est tout simplement génial. Mmh. J'ai toujours pensé que ce mode-là aurait dû d'abord commencer sur la montre et pas sur le téléphone. Bon, après il y avait peut-être des enjeux marketing qui fait que c'était mieux de pousser ça sur l'iPhone en premier. Dans plein d'applications, ils ont ajouté des petites icônes ou fait des petits changements visuels qui rendent la vie plus pratique. On a un petit peu plus d'infos sans altérer la lisibilité. C'est notamment dans le cas dans l'application exercice où, par exemple, lorsque vous faites justement un entraînement et que vous devez courir entre deux bandes de vitesse, si vous êtes au-dessus ou au-dessous, ça s'affiche en rouge. Avant, ça s'affiche. Il affichait juste la vitesse sans vous en dire plus. C'est un tout petit truc, mais c'est très pratique. Et il y a plein de widgets sympas dans le défilement intelligent qui apparaissent en fonction du contexte. Par exemple, si vous avez fait du vélo, si vous faites défiler au bout de quelques minutes, il va vous dire, il va vous faire afficher une petite courbe et vous dire, ah bah ce mois-ci vous avez fait 125 km et cette courbe, elle se compare automatiquement par rapport au mois précédent. D'ailleurs, ce qui est presque frustrant, c'est qu'on a envie de cliquer sur le widget et d'avoir plein de graphiques similaires. Et ben non, là, il lance tout bêtement l'application activité, ça va un peu plus loin. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Pour finir, je trouve que les applications, les nouvelles applications, Synvito et Charge d'entraînement, qui en fait n'est pas une application à part entière, mais qui est en forme, elles sont très, très bien faites. On a un aperçu global, sans être noyé dans de la data. C'est un petit peu le truc à la mode chez la concurrence. C'est vraiment de vous balancer des chiffres à extrêmes et d'être un peu perdu. Là, je trouve que c'est fait justement de manière assez intelligente. Alors, mon seul regret, c'est entre guillemets ces plans. Alors, tu sais qu'il y a une fonctionnalité qui permet de concevoir des trajets, ouais, et des boucles et de les l'envoyer sur l'iPhone ou l'Apple Watch. Mm-hmm. Alors, j'ai fait une sortie justement sur l'Apple Watch. Je me suis dit, tiens, je vais courir 10 km, je vais passer par là. Ça marche plutôt pas mal, mais alors ça mange énormément de batterie. Et puis alors, le truc qui est un peu nul, c'est qu'il faut faire ça depuis plan. Il n'y a pas des API qui font qu'on pourrait depuis, par exemple... utiliser une application spécialisée dans la cartographie lorsqu'on fait des randonnées. On peut pas exporter ça facilement dans plan et dans l'Apple Watch, et ça c'est un peu décevant. J'imagine que ce sera réglé l'année prochaine.
Un petit mot sur Vision OS 2 aussi. Alors, je l'ai testé un petit peu pendant les vacances, enfin cet été. Y a un truc qui est bien sympa, c'est les raccourcis gestuels pour ouvrir le dock, l'espèce de dock avec les icônes d'application en l'air, et puis également le centre de contrôle. En fait, donc, plutôt que d'appuyer sur le bouton qui est situé sur le casque, on peut regarder sa main et faire un geste pour donc ce raccourci gestuel. Et il y a une fonctionnalité, je ne m'attendais pas à l'apprécier autant, mais c'est le fait de pouvoir convertir les photos en photos spatiales, donc avec un effet de 3D. Et je trouve ça très convaincant la plupart du temps. Alors, il y a des fois des petits ratés, mais ça marche quand même très bien. Et en fait, ça marche sur toutes les photos, même les photos qui ont été prises il y a des années. Donc ça marche en particulier sur les photos où il y a des plans bien séparés. Mais j'ai presque redécouvert des photos avec cette fonctionnalité-là. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. C'est pas ça qui change tout l'intérêt du Vision Pro, quoi.
J'ai toujours pas envie de dépenser 3 500 € ou 4 000, c'est bizarre.
4 000. Ouais. Bah non, malgré ça, ça m'a pas donné plus envie de casser ma tirelire pour le Vision Pro. Ouais.
C'était pas le centre du keynote, mais il a été quand même très très rapidement expédié. Ça veut en dire long quand même un petit peu sur le statut de l'appareil. iPadOS, toi, t'as des choses à dire justement ou
Non, pas particulièrement. Les fonctionnalités de l'écriture ont l'air bien, mais alors j'utilise jamais le pencil pour écrire. Donc et puis l'application Notes avec les maths aussi, ça a l'air très bien également, mais ça me concerne pas trop. Donc les nouvelles fonctionnalités d'iPadOS me concernent
c'est
pas
ça,
trop. C'est
ça le souci, c'est que c'est les devoirs ont à peine commencé avec la rentrée, donc je pense que on aura un autre avis sur cette fonctionnalité d'ici un mois ou deux.
Exactement, ouais. Alors, Apple a présenté pas mal de nouveaux produits cette semaine, mais elle en a encore d'autres dans le carton. Et il y en aura même suffisamment pour faire un second keynote en octobre. Les rumeurs portent principalement sur un Mac mini, un iMac et des Mac Pro, tous équipés d'une puce M4. Et puis, il y aurait aussi des nouveaux iPads. Est-ce que tu attends quelque chose en particulier, Christophe ?
Ah bah donc, moi, j'avais déjà misé sur le cheval Apple Watch Ultra 3, donc là, j'ai envie de dire un nouvel iPad mini. Histoire d'être déçu.
Porte pas malheur.
Non, moi j'ai assez peu d'attentes. Moi j'ai juste un autre petit message de service à faire passer à Tim Cook. Si on pouvait éviter le spot de 30 minutes à 2 ou 3 heures du matin.
Oui.
Ouais, ce serait bien. C'était sympa une fois. Voilà, mais bon.
Bah là, vu le nombre de produits, je pense que ça durera plus longtemps quand même. Et ça sera. Il y a de quoi faire un keynote d'une heure là.
Oui, mais c'est ce qu'on s'était dit l'année dernière, parce qu'ils avaient aussi un petit peu... Enfin, il y avait les Mac, mais il y avait des choses un petit peu avant, et ils auraient pu border, hein. Non, mais sinon, bah oui, ça serait intéressant de voir les premiers Mac avec cette fameuse puce M4. C'est assez marrant de se dire que l'iPad est maintenant disponible depuis... C'était la fin du printemps, début de l'été, et qu'on n'a toujours rien sur Mac, et voilà, on a envie de voir ce que va donner... cette puce dans un MacBook Air ou dans un MacBook Pro. Après, bon, c'est des mises à jour qui sont malgré tout assez incrémentales. Donc je ne suis pas sûr que cette mise à jour soit déterminante et change la face de l'humanité. Alors, évidemment, je crois que, on va dire, la nouveauté marquante de cette fin d'année, ça devrait être le Mac Mini, hein, qui devrait adopter, on va dire, un boîtier Apple TV, peut-être en un peu plus gros. Donc voilà, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner de nouveaux types d'utilisation à cette machine. Est-ce qu'ils vont dire, regardez, sur un serveur, sur une base serveur, là où vous mettez un serveur, on peut mettre, 12 ou 16 Mac Mini. Ça va être très intéressant à voir. C'est chouette de le miniaturiser, mais pourquoi ? C'est l'autre question. Et voilà, et puis alors... On va dire, d'un point de vue réglementaire, je ne serais pas étonné que Apple en profite pour changer la connectique de ses claviers et accessoires. Et alors, boucle pas totalement, enfin, faudrait voir, mais migre quasiment la totalité de ses produits vers l'USB-C.
Oui, non, il ne reste plus grand-chose hein, sur tous les accessoires maintenant. L'AirPods Max, c'est fait. Donc, c'est les petits accessoires. Ouais.
Bah, il reste. Il y a toujours le SuperDrive, mais le SuperDrive, je ne sais pas ce que c'est en fait. C'est tellement vieux. J'ai vu qu'il était toujours en vente en fait. C'est pour ça que j'ai pensé à ça.
C'est l'USB-A.
Ouais. D'accord. Il y a deux produits qu'on surveille à chaque keynote pour voir s'ils sont en vente. C'est le lecteur SuperDrive et les écouteurs d'Apple. Ils sont toujours là.
Ouais. Et on va terminer le tour de l'actu avec la conclusion d'une longue affaire judiciaire et financière. La Cour de justice de l'Union européenne a ordonné à Apple de rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux qui ont été injustement accordés par l'Irlande. Alors le gouvernement irlandais, qui s'était rangé du côté d'Apple dans cette affaire, est tenu de récupérer cette belle somme. Pour donner une petite idée de ce que représente 13 milliards d'euros pour Apple, sachez que rien qu'au dernier trimestre, Apple a dégagé un bénéfice net de plus de 19 milliards d'euros. Donc bon, l'arriéré ne va pas vraiment peser dans ses comptes, mais du côté d'Irlande, l'utilisation de ces 13 milliards va être un des enjeux majeurs des prochaines élections législatives. Donc c'est enfin une affaire terminée pour Apple en Europe. Bon, pas terminée de la meilleure des manières, mais c'est fini. Mais il en reste beaucoup d'autres, je crois.
Oui, alors je n'ose imaginer une telle affaire en France avec la cagnotte des 13 milliards d'Apple. Qu'est-ce qu'on va en faire, ça serait... Voilà, ce serait marrant. Mais de toute façon, il y a quelque chose que tu dis pas, mais je crois de mémoire que les 13 milliards avaient déjà été mis sous séquestre.
Oui, oui, oui.
Et qu'il y avait même une personne qui était censée plus ou moins piloter un fonds. Alors voilà, enfin, c'était assez... c'était assez épique, cette affaire. Malgré tout, je trouve quand même que c'est une affaire qui est assez différente de celle que l'on connaît actuellement, parce que là, finalement, au centre de l'affaire, c'est presque plus un différend entre l'Union européenne et l'Irlande qu'une affaire entre Apple et l'Union européenne.
Ouais.
Donc, voilà, c'est un peu... C'est assez différent des différentes affaires qu'on va avoir avec notamment le DMA et compagnie dans les mois à venir. En tout cas, c'est... Oui, alors, j'imagine que pour les politiques, c'est quand même assez fou, c'est de dire, bon, on vous fait un cadeau fiscal assez important, on récupère ce cadeau fiscal alors qu'on comptait pas le récupérer... Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et je me demande aussi comment... je serais assez curieux de connaître les relations maintenant qu'entretiennent Apple et l'Irlande. Parce que finalement, voilà, ils se retrouvent dans un... Comment dire? Dans un scénario qui n'avait sans doute pas été envisagé au début. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous, et bah écoutez, profitez de ce week-end pour faire des sauvegardes, on ne sait jamais, et comme ça, bah, parce que j'en connais, enfin, on est tous pareils, hein. Lundi, ceux qui ne l'ont pas fait vont être quand même très fortement tentés d'installer les versions finales des différents systèmes d'exploitation d'Apple.
Et puis à la semaine prochaine pour un prochain Sortie de Veille, salut à tous.